Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Silence en joue, Erwan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, on va parler de quoi ? On va parler de Nintendo Labo, de Metal Gear Survive, de Crossing Souls, de Bayonetta, et on finira rapidement par Into the Breach, le nouveau jeu des développeurs de FTL. Et puis le reste, le com des com, bah toujours pas de Monsieur Fall. Oui, mais parce qu'on a des nouvelles de lui d'ailleurs, mais on essaiera de le faire venir, tiens, peut-être.
Ça bouclerait la boucle, ça.
Mais voilà, exactement, exactement. Bref, je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Corentin Benoît Gonin, des Croissants. Bonjour Corentin.
Bonjour Erwan.
Et Patrick Elio. Bonjour Patrick.
Bonjour Erwan.
Patrick Elio de Kickstarter. Hein. Voilà, c'est
ça. Pas là,
pardon. on commence avec toi, Corentin.
Oui, alors c'est justement un papier qui est sorti dans Libération qui nous raconte comment Webedia a va bénéficier d'aide publique. Donc c'est un rapport que s'est procuré donc Libération qui parle de la politique du sport en Île-de-France. Et il se trouve que Webedia, donc grande société hein, qui détient des sites tels que Allociné, 750 grammes ou encore jeuxvideo.com en l'occurrence, a perçu des aides publiques de la part de la région Île-de-France, dont la présidente du conseil est donc Valérie Pécresse, à hauteur de 200 000 euros pour l'organisation d'un tournoi qui coûte 340 000 euros. Donc c'est beaucoup d'aides publiques pour un tournoi, une belle partie. Et d'autant que les 140 000 euros restants sont également financés par plein d'autres communes franciliennes. Et donc 100% de ce tournoi va être financé finalement avec l'aide d'aide. Et donc c'est un peu étonnant pour une boîte comme Webedia, donc filiale groupe Fimalac, c'est bien ça, hein, qui a un gros chiffre d'affaires hein, de l'ordre de, je l'ai noté, 200 millions d'euros. Donc voilà, a priori ils ont les moyens pour organiser un tournoi. Mais ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que d'après donc toujours les informations de Libération, c'est que le dossier de demande d'aide est vide, quoi. Il y avait trois lignes. Voilà, il y avait très peu d'informations sur, je sais pas, par exemple, est-ce que le tournoi sera gratuit, combien de joueurs allaient participer, voilà.
Donc les cash prizes, voilà, les choses comme ça. Parce que si les cash prizes sont financés par l'argent public, ça va commencer à être un peu moyen, par exemple. Et j'en sais rien, peut-être pas.
Et donc, c'est très étonnant et ça la fout un peu mal dans la mesure où plein de, par exemple, de petites équipes sportives aussi en Île-de-France ont du mal, enfin, de clubs sportifs ont du mal à se faire financer justement pour leurs activités. Qu'un tournoi d'e-sport, on n'a rien contre l'e-sport, c'est pas la question d'e-sport, mais que ça soit financé à ce niveau-là par des aides publiques, c'est un peu étonnant. Mais on se dit, oui, alors est-ce qu'il n'y a pas finalement une course un petit peu, une course à l'échalote de la part des villes qui veulent absolument récupérer ce marché de l'e-sport qui est, d'après certaines publications comme Challenge, c'est également ce que raconte Libération, c'est un marché quand même qui va rapporter beaucoup d'argent. Il s'est estimé pour 2020 à 1,5 milliards d'euros. Donc ouais, à mon avis, il y a peut-être une petite course à l'échalote qui est en train de se mettre pour... Ouais, j'aime bien le mot course à l'échalote.
Oui, mais voilà, c'est... Ah, non, c'est imagé.
Et peut-être que Webedia en a un peu profité.
Oui, voilà. Il faut dire que e-sport est un buzzword maintenant. Les prévisions de croissance et tout ça, c'est quand même beaucoup, beaucoup du vent. Et même si l'e-sport, moi j'adore l'e-sport, c'est pas du tout le problème. Il y a pas de manifestations sportives qui sont financées à plus de 30% par l'argent public. Là, surtout qu'on ne connaît pas les conditions, c'est très très étonnant. On va voir ce que ça va donner cet événement. Mais
alors on enregistre, ils n'ont pas encore répondu, donc il y aura sûrement une réponse entre temps. On verra bien qu'est-ce qui se passe.
Forcément.
Je pense qu'il va y avoir un petit rétropédalage. Enfin, ça me paraît.
Il va y avoir un contre-feu à mon avis.
Un détail du pourquoi, du comment.
Oui, Patrick. Voilà.
On va revenir sur Monster Hunter World. J'en avais parlé ici même il y a quelques semaines maintenant. Je vous avais dit tout le bien que j'en avais pensé, de la réussite du jeu, qui je trouvais avait réussi à à se simplifier, en même temps à s'adresser à un public plus, plus global, et à un peu se dépoussiérer ces systèmes, etc. Et en fait, avec un titre qui marquait la première arrivée de la saga sur console actuelle. Donc ouais. ça ouvrait beaucoup de perspectives de gens en ligne, etc. Et ça marche très très fort, les communautés ont suivi le jeu. Et là, Capcom vient d'annoncer que le jeu avait été distribué à hauteur de 7 500 000 exemplaires.
C'est ce énorme. Fait,
c'est énorme, surtout sur un temps aussi réduit, parce que le jeu, il y a un mois, un peu plus à peine. Ouais. Enfin, il est tout récent, quoi. Et ça en fait la meilleure vente de Capcom de son histoire. Enfin, c'est vraiment un carton en termes de
surtout,
rapidité.
Surtout, c'est aussi une validation de la stratégie de Capcom qui est aujourd'hui de sortir un gros jeu par an, grosso modo.
Ah, c'est pas cette stratégie.
Non, mais c'est vrai.
Il a fait plus fort, par exemple, que le Resident Evil 5, qui était la meilleure vente historique de Capcom depuis 10 ans maintenant.
Mais surtout, c'est fort, parce qu'ils ont réussi à décliner ce succès japonais en un succès mondial, et c'était leur objectif avec, on va dire, tu en parlais hein, pendant la critique du jeu ici même, c'était, voilà, on transforme le jeu pour le rendre un petit peu plus occidental-friendly.
Plus mondial. Garder les Japonais et en même temps ouvrir quand même au marché américain, européen.
Mais là, ils ont réussi, ça fait...
Ils ont réussi. Encore une fois, c'est un carton rapide en quelques semaines. Je crois que la saga, d'après Capcom, arrive à 48 millions d'unités au total, hein, quand on prend tous les exemplaires de tous les jeux depuis plus d'une décennie. Donc en tout cas, réussi pour Capcom, c'était risqué, c'était pas gagné à l'avance, et en tout cas ça marche très très bien. Il faut rappeler aussi qu'ils ont opté pour un schéma assez fair play, même en termes de contenu, pas de season pass, pas de micro-transactions, tout est gratuit, voilà, tout se fait de façon gratuite.
On sent un gros DLC.
Il y aura certainement des choses, mais en tout cas, là, on sent qu'ils soignent le jeu et qu'ils sont assez fair play sur le suivi. Puis, encore une fois, la communauté est là. Il suffit d'aller voir Twitch. Il se passe pas mal. Le jeu est très suivi. Donc voilà, ça, c'était la bonne nouvelle suite à la critique qu'on a pu faire de Monster Hunter. Et puis moi, je suis évidemment les dernières rumeurs sur Rockstar. On avait parlé de Red Dead Redemption 2 il y a quelques semaines. Là, il y a des petites choses qui sortent un petit peu sur le fameux GTA 6 que tout le monde attend. On a tout le temps des rumeurs sur GTA 6. C'est un peu un fantasme de l'industrie parce que GTA 5, il est encore là. On en parlait encore il n'y a pas très longtemps. Il se vend toujours par camion entier. Donc, je pense que Rockstar est très serein sur son rythme de développement. Il n'y a aucune pression sur la sortie.
Il faut prendre le temps.
Il y a beaucoup de rumeurs qui sortent. Là, il y a des rumeurs qui ont l'air assez fondées, qui viennent d'une chaîne sur YouTube qui s'appelle The Know, qui est assez, assez sérieuse, a priori. Qui a évoqué les derniers bruits sortant de chez Rockstar, qui évoque ce qui s'appellerait le Project Americas, donc ça serait le GTA 6, hein, ça serait son petit nom de développement, avec une sortie à l'horizon a priori 2022, on estime dans ces eaux-là, et surtout moi ce qui m'a titillé, ça serait un retour dans la fameuse ville de Miami,
de Vice City
qui pour moi est Vice City, c'était les années 80, c'était enfin un jeu moi qui m'a énormément marqué parce que le jeu était fabuleux en soi et puis surtout il était ultra référentiel, c'est un peu le leitmotiv de cette émission d'ailleurs aujourd'hui. Mais voilà, il était ultra référentiel sur les années 80, il avait assimilé tout Scarface, Miami Vice, tout ce cinéma des années 80. Donc voilà, cette notion que GTA pourrait revenir sur Miami, les années 80, pas forcément, c'est pas sûr, parce que est-ce que ça serait...
C'est logique que ça revienne à Vice City, hein, après Liberty City et San Andreas.
On pourrait retrouver cette carte. Bon, ça serait donc Americas, donc avec peut-être l'Amérique du Sud aussi, c'était une aussi une des rumeurs qui courent.
Modéliser un continent. Voilà.
Et 2022, ça peut le faire. En tout cas, horizon 2020, avec cette idée qu'on pourrait avoir aussi, comme GTA 5, un titre cross-génération. GTA 5 qui était sorti sur les PS3, sur les 360, et puis il a fait Moi, je dis pas de bêtises, hein, il était sorti sur la génération suivante. Il a été réadapté ensuite.
Rappelons qu'il s'agit de rumeurs.
Bien sûr, mais qui font rêver.
Tous les titres Rockstar.
C'est aussi là où on voit la force de Rockstar. C'est-à-dire qu'il bouge un petit doigt et tout de suite.
Il sortira sur la Switch U. Qui est aussi rumeur.
Ça serait pas mal. Il faut reconnaître que ça va être difficile de concevoir un prochain GTA sans la Switch en tête. Et ça. On verra.
Alors moi, juste avant de passer au com des coms, je voulais revenir, c'était à peu près, je crois que c'était l'émission de Monster Hunter où on en a parlé, sur Slay the Spire, parce qu'en fait, on avait fait une critique sur les premiers moments du jeu. Je suis tombé dedans. Hein, donc voilà, dire que c'est très impressionnant. C'est la première fois qu'un jeu me soigne de Hearthstone, par exemple. C'est quand même pas... c'est pas rien. D'ailleurs, je ne touche plus. J'ai raté des quêtes. J'ai pas fait des...
Bon, le terme de soigner était un petit peu...
À un moment, au bout d'un certain nombre d'années, peut-être.
Pathologie, donc, il y a
quelque chose de l'ordre de la pathologie. Okay. Et dire que voilà, il y a un late game sur Slay the Spire qui est assez fourni. Les ascensions, donc une fois qu'on a vaincu, fait plusieurs runs complets, parce qu'on rappelle que c'est quand même un roguelike, hein, on recommence tout à zéro à chaque fois. Il y a 15 ascensions avec des malus qui s'additionnent à chaque fois. Et ça rend le jeu absolument dingue. Alors maintenant, évidemment, il y a des joueurs de speedrun, ce que je trouve assez rigolo pour un jeu de cartes, du speedrun de jeu de cartes, c'est assez marrant. Et ils ont prévu, hein, c'est-à-dire qu'il y a un mode rapide qui vire les animations pour que ça aille plus vite, et il y a un mec qui a fini un run en moins de 7 minutes, et je ne sais pas, enfin, la vidéo est disponible, c'est assez incroyable. Bref, le com des coms de il y a 3 semaines, alors il n'y a pas eu d'émission la semaine dernière, contrairement à ce qui était prévu, parce que j'ai eu quelques soucis au genou. Mais bon, bref, l'émission d'il y a 3 semaines où on parlait de Subnautica, c'est Cytoplasme hein, qui a beaucoup joué et qui dit « Subnautica est un excellent jeu, coloré, ambitieux, avec de belles surprises et un chouette plaisir à construire sa base. On lui reprochera, comme les chroniqueurs, quelques erreurs dans le guidage du perso et le déblocage des plans. Le scanner est l'objet à construire le plus vite possible. Or, rien ne pousse le débutant à le construire. Il est vite dans la liste des objets constructibles, mais vers la fin de cette liste, et il est plus compliqué à construire que d'autres objets qui semblent plus utiles. Résultat, pour ceux qui ne le construisent pas rapidement, les premières heures vont vite être répétitives et pénibles. » Pour moi, voilà. Amen. De même, il faut beaucoup de temps avant de débloquer la salle multifonction qui est fondamentale pour construire une base. Résultat, on se retrouve à débloquer plein de meubles et de machines intéressantes, mais on ne veut pas les construire parce qu'on n'a pas de base. Et voilà. Et donc, il est bien tombé dedans et ça vaut le coup, ce Subnautica. Bref, avant de commencer avec toi, surtout sur Metal Gear Survive, je voulais juste faire une petite aparté parce que j'ai eu l'occasion, évidemment c'était un événement organisé par Nintendo à la Cité des Sciences, de découvrir Nintendo Labo quelques heures. C'était la semaine dernière. Donc on rappelle, Nintendo Labo, ça sort le 27 avril. C'est planches de carton à monter soi-même avec deux sets. Donc il y a un set multi-kit qui comprend un jeu de pêche, un jeu de voiture, un jeu de course, un jeu de maison, un piano et une petite voiture téléguidée. Et il y a un autre set robot. Le premier est à 60€, le deuxième est à 70€. Et voilà. Et donc j'ai pu essayer les choses et c'est assez impressionnant. Donc j'ai eu l'occasion d'y aller avec mon fils qui a 5 ans et demi, enfin presque 6. Et je suis
bêta-testeur, c'est un bon test, du coup. Mais, bon bêta-testeur.
Je ne suis pas la cible, très clairement.
En tant que parent, peut-être.
Oui, en tant que parent, je suis la cible plutôt.
C'est toi, exactement.
C'est toi qui vas faire le chèque. Belle correction.
Voilà, c'est imbriqué parent enfant. Je pense que tout ça.
Je n'ai jamais vu mon fils me reparler tous les jours depuis la semaine dernière de quand est-ce qu'on va pouvoir avoir les trucs qu'on a testés dans le magasin. Parce qu'il pense que c'est un magasin où on allait. Mais bon, ça c'est pas grave.
Magasin de luxe.
C'est ça.
Un grand magasin.
Alors pour dire alors. Le robot, donc l'élément le plus cher, me semble assez gadget. On sent quand même, alors sauf s'il y a d'autres choses, mais pour l'instant, en fait, on contrôle un robot avec un gros sac à dos en carton et puis des commandes main-pied.
Donc il y a deux coffrets différents, avec chacun un jeu embarqué, donc une cartouche pour la console, et puis des assemblages de carton. Voilà, un qui est pour ce robot qu'on assemble sur soi, et l'autre avec plein de petites constructions, canne à pêche.
Le robot, moi, m'a pas ultra convaincu. C'était rigolo, mais alors c'est pénible à construire, j'en sais rien, mais déjà rien que pour s'arnacher, c'est pire qu'un casque VR, pour vous dire. Et le jeu qu'on a vu, c'était un jeu de contrôle de robot sur la télé, avec un mode de troisième personne et un mode vue subjective. M'a pas semblé super intéressant. C'est possible qu'il y en ait d'autres, évidemment, mais c'est pas le truc le plus convaincant. Par contre, le reste, c'est absolument dingo.
Et du coup, la qualité du carton, parce que tu l'as pris en main, du coup,
Franchement, ça va. Franchement, c'est très bien. Tu sens que c'est pas. Bon, après, c'est pas le truc le plus solide de l'univers. Mmh. Si tu fais renverse de l'eau dessus, à mon avis, il le vit mal.
C'est biodégradable.
Mais franchement, les trucs, ça, on sent qu'il va y avoir du plaisir à construire. Et les enfants surkiffent le fait de jouer. Alors, moi, le mien, la moto, où on joue avec un guidon de moto, qui contrôlait moins bien les choses. choses, mais le piano, la maison où il y a une sorte de mini-monstre qu'on doit nourrir avec des bonbons, où on peut faire plein d'activités différentes avec des modules qu'on encastre dans la maison, il a adoré. Et puis en plus, il y a un petit mode, alors ça, on sait pas. J'arrive pas à savoir à quel niveau ça va arriver, mais en fait on va pouvoir construire ses propres interactions.
Un mode
discovery où on va pouvoir contrôler les entrées et déclencher une sortie
de la programmation presque un petit peu très simplifié. Alors,
on se rappelle de l'excellent WarioWare Do It Yourself qui allait très très loin dans trop peu connu, mais qui allait vraiment très très loin dans les capacités de programmation.
Sont toujours très intéressants.
Mais donc là, on est plus simple, c'est-à-dire qu'il y a grosso modo, il y a des entrées. Ça va être ou la caméra infrarouge, parce que la caméra infrarouge du Joy-Con gauche
est énormément
utilisée.
C'est ça qui est très fort, c'est qu'on a quand même un produit qui a l'air très low-tech quand on le voit, quand on voit l'annonce. Mais en fait, c'est un des concepts de soft, parce que ça reste du soft, qui exploite au mieux toutes les capacités de la machine. Après, on connaît Nintendo, développement imbriqué, hardware, software, tout ça a été développé en même temps. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas commenté l'annonce de Nintendo Labo ici, mais enfin, c'est impressionnant. La façon dont Nintendo arrive toujours à prendre le contre-pied de ce qu'on peut attendre. C'est vrai qu'on parle beaucoup VR, on parle beaucoup 4K aujourd'hui sur le marché, on parle d'évolution comme ça technologique. Et oui, ils nous sortent ce concept.
Mais surtout, c'est cette caméra infrarouge fichée dans la Joy-Con gauche, personne n'en a... Personne n'a calculé le machin parce que personne s'en sert.
Je regarde un vidéo, c'est Game Theory, et il parlait de cette caméra. Il disait attention, ils vont faire quelque chose. Il savait pas, est-ce que ça va être de la VR, est-ce que ça va être autre chose.
Mais la première fois où on est confronté à cette caméra, moi j'étais assez étonné. C'est en fait le jouet le plus simple, c'est la voiture, le truc téléguidé. Donc c'est 4 pliages, et puis on met les Joy-Con sur chacun, et puis on peut commander va à gauche, va à droite et va tout droit. Et en fait, il y a un mode où on lui met un truc devant et elle suit. Et c'est là où je découvre, mais comment il fait ? Et en fait, je découvre qu'il y a cette caméra infrarouge en haut du Joy-Con gauche. Et après, en fait, c'est ça qui permet, par exemple, tout le piano. C'est un truc où il repère les autocollants,
le couteau suisse de la console. Et je crois que Nintendo a d'ailleurs annoncé que ils n'avaient pas fini. Ils avaient encore d'autres projets comme ça qui sortent de ce qu'on peut attendre d'un jeu vidéo classique.
En tout cas, pour le kit de base, donc le multi-kit qui coûte 60€, pour moi, c'est vraiment impressionnant, en tout cas pour la cible, les enfants. Alors, ils visent entre 5 et 8, 10 ans.
Je pense que les curieux vont aussi sauter le pas.
De toute façon, tous les fans de Nintendo, ils vont quand même acheter.
Les collectionneurs vont les garder en boîte dans un coin.
Exactement, comme les Amiibo.
Comme les Amiibo. Exactement.
Non, je les ouvre, je les utilise.
Par contre,
c'est un peu vulgaire, ça, de les ouvrir.
Garder un Nintendo Labo sous plastique, moi, ça. Bon, bref.
T'en achètes deux. Enfin, moi, après ça.
Allez, partons. Du côté de Konami avec le premier Metal Gear sans Kojima, sans Hideo Kojima, annoncé en août 2016 pendant la Gamescom, Metal Gear Survive. We don't do something about them. There will be enough of them to destroy the human race. Alors, Metal Gear Survive, déjà, je voudrais te remercier, Patrick.
Pourquoi donc ?
Alors, parce que moi, l'idée de le lancer...
Il ne faut pas se bloquer à des choses comme
donc
ça.
Donc, je remercie d'y avoir joué. On peut en parler dans ce genre de jeu.
Sur la thématique de zombification d'un monde existant. Donc, on a eu Red Dead Redemption option zombie. On avait eu les Dark Souls... Yakuza, qui était aussi passé en mode zombie. Donc, je voulais essayer ce...
Bien. Et alors, c'est de là. J'ai cru comprendre que c'était de la survie où il faut construire une base et il y a des hordes.
Il faut s'armer de. C'est vrai, pas de courage, faut pas exagérer, on est comme sur un jeu vidéo, c'est sympa à jouer. Il faut y aller, quoi. C'est vrai qu'il a tellement été annoncé dans des cris de scandale parce que c'était un jeu qui a été fait sans Kojima.
De la communauté.
Tiens, on parlait de Nintendo Labo, la caméra. Kojima, je pense qu'il ferait des trucs sympas avec la caméra de la Switch, voilà, parenthèse. Donc c'était le premier jeu post-Kojima, donc créateur de la saga. saga chez Konami, déjà, ça, c'était un premier point qui froissait les fans, et on peut le comprendre, hein, c'est toujours difficile de faire survivre une série à son créateur, en plus un tel créateur qui a quand même une âme, qui a vraiment une patte bien particulière.
Même au corps défendant du créateur presque.
Je pense qu'il a pas trop parlé du jeu de façon, parce que contractuellement, je pense qu'il pouvait pas trop commenter, mais bon, je pense qu'il était pas forcément d'accord avec tous les choix qui ont été faits, et bon. Tout ça et, hein. Et puis il y avait aussi ce choix de faire venir des zombies dans l'univers de Metal Gear.
Ça, Kojima en avait déjà parlé.
C'est quand même assez étrange. Alors il faut voilà, quand on lance le jeu, c'est assez surprenant. C'est vrai que les deux premières heures sont terrifiantes parce qu'on a ce. Alors moi, je suis assez adepte de ces scénarios de série Z avec des invasions de zombies. Il faut s'accrocher, c'est vrai que le début est complètement hallucinant, c'est ni queue ni tête, on part dans des explications de monde parallèle avec des zombies, des machins, on se retrouve dans un monde complètement grisâtre, moche, déprimant, où très vite donc, on crée son alter ego, et puis on se retrouve dans un simili monde ouvert où on est en mode survie, un peu hardcore, c'est-à-dire que très vite on a les compteurs de soif, de faim. Et il faut vite se nourrir, il faut vite chasser pour survivre. C'est vrai que les débuts sont un peu difficiles, les 2-3 premières heures, il faut vraiment s'accrocher parce que c'est pas très beau, c'est assez austère, c'est un peu rigide, et voilà, on se retrouve vraiment avec des trucs de survie pas faciles à gérer. Donc bon, et puis passer avec ce côté très série Z
J'ai quand même beaucoup de mal à comprendre comment aujourd'hui, en 2018, on peut flinguer ces 3 premières heures de jeu. C'est quand même. La difficulté qu'ont les joueurs pour s'accrocher, pour.
Ton appétence pour les univers de série Z. Si t'aimes bien ce côté un peu arriver dans un univers parallèle, hanté par des zombies qui te courent après, où tu dois survivre et chasser des rats et des trucs pour survivre, tu peux accrocher. Je me suis accroché, et puis le jeu commence vraiment à se dessiner, mais comme souvent dans les jeux comme ça de survie qui demandent quand même un investissement assez important, c'est vraiment. Plus tu t'investis, plus tu vas passer du temps dessus, et plus le jeu commence à prendre forme, et tu vas commencer à prendre plaisir à jouer quand tu. Il faut vraiment passer un cap de quelques heures, où tu vas commencer à prendre des mécaniques, etc. Et finalement, tu dis, Metal Gear, c'est une skin, tu le sais, tu dis, il y a une licence Metal Gear, je suis pas là pour ça, tu retrouves pas. Évidemment, t'as pas la patte Kojima qu'on connaît depuis très longtemps.
Je crois que l'objectif aussi de ce jeu-là, c'était d'utiliser ce pauvre Fox Engine qui est un super moteur, mais qui n'a servi qu'à Metal Gear quasiment, et c'est dommage.
Donc il faut vraiment passer outre tout ça, il faut faire aussi son deuil. Alors moi, j'ai envie de dire que j'ai pas l'attachement à la série Metal Gear que peuvent avoir les fans hardcore. C'est-à-dire que moi, j'ai joué à quelques titres, évidemment, je connais, mais je suis pas un fan hardcore, ce qui fait que j'ai pas été froissé peut-être autant que certains sur la façon de récupérer la licence, etc.
Sur l'histoire très riche.
Voilà, moi, je l'ai joué de façon un peu décontractée, sans avoir les enjeux qu'un fan hardcore va avoir en criant toutes les 5 minutes, en disant non, pas ça, pas ça. Moi, j'ai joué de façon décontractée, enfin, façon de dire, sur un jeu de survie aussi austère. Et voilà, encore une fois, passé quelques heures, on finit par apprécier le jeu. Moi, j'ai commencé vraiment à apprécier le jeu, peut-être 4-5 heures de jeu, où on commence à vraiment apprécier le côté explorer. On a donc cette base de départ qu'on va construire. Donc, c'est un jeu qui imbrique plusieurs facettes. On a une gestion de base qu'on va augmenter au fur et à mesure. On a un mode survie avec ce personnage qu'on va faire évoluer, qu'il faut entretenir, qu'il faut faire avancer dans un monde simili ouvert. Et puis, on a un vrai aspect tower defense avec des points à sauvegarder. Et là, en fait, très vite, le niveau de difficulté va avancer assez rapidement. Et c'est pas plus mal. C'est-à-dire que très vite, ça fait le tri entre les joueurs qui vont dire, je laisse tomber parce que. Et c'est là que j'ai senti que j'avais accroché. C'est-à-dire que je me suis accroché. J'ai commencé vraiment à faire la tower defense, où on commence à jouer un peu avec les codes du jeu, avec ses mécaniques, sur poser des grilles, etc. Et finalement, ça marche plutôt bien. Il faut passer quelques petits défauts. Je trouve que les combats en mêlée sont pas très précis, sont un peu brouillons.
Il faut passer 18 heures de jeu et ça commence à devenir sympa.
Non, pas 18 heures. Non, je pense qu'il faut vraiment passer un plateau de 4 heures de jeu. Et là, on commence vraiment à saisir le principe de jeu. Moi, j'ai accroché. Voilà. Il a fallu vraiment que je passe un cap et j'ai fini par accrocher aux mécaniques. Finalement, le côté austère, on passe outre. Et puis, il reste que ces mécaniques de tower defense, de survie, qui sont assez âpres, mais qui finalement ont un goût de
revient. C'est des vagues, en fait. C'est des vagues. Tu as du temps pour préparer une base.
En fait, c'est un jeu de géographie en monde ouvert. Donc, tu as plusieurs bases que tu vas sécuriser, où tu vas pouvoir te téléporter. Tu as des missions où tu vas aller sauver des personnages, tu vas interagir sur des trucs comme ça. Et puis, tu as des bases donc les tower defense, notamment, c'est quand tu dois protéger des hubs qui vont te permettre ensuite de balader dans la carte, etc. Donc, c'est des moments où il faut protéger ces passages et où là, tu dois vraiment te confronter à des hordes de zombies. Alors, des zombies très génériques, hein, qui n'ont pas
beaucoup de personnalité. Bah, voilà,
globalement, le jeu, c'est vrai, quand on le voit tourner, il n'est pas très sexy comme ça. Et encore une fois, c'est vraiment ces mécaniques qui ont un goût de reviens-y. En tout cas, il faut avoir un goût aussi pour le loot, pour le craft. Et ça, c'est bon. Moi, j'ai cette fibre qui va faire aussi que ça va me challenger un peu sur le jeu. Je me dis, ah bah tiens, je vais quand même essayer parce que je vais aller faire
telle mission. C'est challenger, hein. C'est mal.
Ça va me défier.
Oui, voilà.
C'est la Startup Nation.
ça va m'interroger sur le jeu. Voilà. En tout cas, moi, j'ai cette faculté un peu à mordre à ce genre de trucs comme ça, de collectionnite de choses, d'encaisser les mains. Donc voilà, tous les voyants pour moi étaient plutôt alignés pour que finalement j'apprécie le jeu.
D'accord.
Voilà. Donc,
Metal Gear Survive.
Je pense voilà, un puriste de la saga va avoir du mal, quelqu'un qui est pas dans le crafting et compagnie va vite décrocher. Et les gens qui aiment pas les jeux tout gris et tout vont décrocher.
Le problème, c'est que j'ai l'impression que les gens qui aiment le crafting aujourd'hui vont plutôt jouer à Subnautica qu'à Metal Gear Survive.
Ça, oui. Après, mais après, c'est encore une fois ce mix de différents genres avec un peu d'exploration, un peu de survie et puis une ambiance quand même plutôt apocalyptique. Bon, voilà, qui peut créer une adhésion. Voilà.
Bon, on parlait donc Metal Gear Survive sur les nouvelles générations, annoncé sur PC, je crois.
C'est une bonne question. Je ne crois pas. Je crois pas que ça sorte sur PC.
Ah bon,
je suis pas sûr.
On n'est pas sûr. Revenons donc au gros morceau de cet épisode parce que on revient encore une fois dans les années 80.
On n'en est jamais vraiment parti.
Oui, voilà, c'est ça.
Nous sommes restés là-bas et
avec une production de Foratic, un studio espagnol. Il y en a trop peu il y en a quelques-uns. Hein. On connaît Pendulo, mais
String, c'était pas aussi des Espagnols?
Bonne question.
C'est le deuxième. Hein.
Édité par Devolver Digital, c'est Crossing Souls. Crossing Souls qui est donc sorti il y a quelques semaines et surtout qui vient d'un Kickstarter entre novembre et décembre 2014. Alors c'est pas un de ces Kickstarters hyper médiatiques qui bat des records, mais c'est justement la catégorie peut-être la plus intéressante des jeux financés sur Kickstarter. C'est ceux comme Crossing Souls qui demandent $45,000, une belle somme, et qui en obtiennent 52. Voilà, il n'y a pas de milliards de paliers à débloquer.
C'est juste Undertale avait été aussi dans ces eaux-là un petit peu. Donc c'est des
Devolver qui donc les signent en édition. Ouais. C'est ça, hein, c'est Devolver qui signent. Je pense que ça a dû les aider aussi.
En cours de Kickstarter, ils ont dit quel que soit le niveau de financement qu'ils auront, on s'en occupe.
On les suit.
Et ça, c'est plutôt sympa.
Ça, c'est plutôt, c'est bon esprit.
Alors, Corentin, ce Crossing Souls.
Donc Crossing Souls, on l'a dit, un jeu qui nous ramène dans les années 80. Alors,
86, soyons précis. Non, c'est l'année 86.
Alors. J'ai envie de dire encore, mais c'est un peu malgré eux, les pauvres. Donc c'est vrai qu'ils ont démarré leur projet assez tôt, en 2014. Et moi, j'avais déjà joué à l'époque, c'était en présentation, je ne sais plus si c'était à l'E3 ou ailleurs, mais en tout cas, ce jeu-là, ça fait un moment qu'il est dans les tuyaux et on ne peut pas trop leur en vouloir non plus.
C'est pas du rattrapage, c'est pas du Stranger Things.
Les mecs, ils ont juste mis plus de temps parce que c'était une petite équipe, ils avaient leur jeu à faire et donc voilà. Donc bon. On est un peu saoulé des années 80, en tout cas c'est mon cas, mais je peux pas trop leur en vouloir non plus, je suis désolé.
Je le laisse parler, tu noteras que je le laisse parler.
Il culmine à côté.
Non, mais
c'est vrai qu'on en a un peu soupé ces derniers temps dans les grands médias, là c'est pas grave, ils commencent à s'attaquer aux années 90, en ce moment avec des séries comme Everything Sucks notamment, mais bref.
Ces années 90 en ce moment.
On est dans les années 80, donc avec tous les clins d'œil des années 80 qu'on peut avoir, donc Ghostbusters, Retour vers le futur.
Il y a à peu près tout, enfin je pense qu'ils sont assez complet.
Oui, c'est clair qu'on est aujourd'hui dans une période, en tout cas au niveau de la fiction, des rappels, références et tout ça, qui va connaître dans quelques semaines, mois, son apogée ultime avec la sortie de Ready Player One. Et je pense qu'après Ready Player One, plus personne ne voudra entendre parler des années 80. C'est fini.
On passera aux 90.
Voilà, attendez-vous
au Club Dorothée, ça revient. Ce qui est intéressant, c'est que non seulement, un peu à la Stranger Things aussi, c'est que non seulement seulement il y a le référencement à toutes ces choses-là qu'on a aimées dans notre enfance, mais il y a aussi dans la construction même du scénario quelque chose de très années 80. C'est-à-dire que on incarne donc Chris, qui est donc ce jeune homme saillant qui est avec sa bande de copains où ils vont faire les 400 coups pendant l'été. Donc ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle des films comme les Goonies, même plus récemment Super 8, ce genre de films. Voilà.
Il y a une liste.
Voilà, donc les bandes de potes qui vont sauver le monde, hein, grosso modo. Et c'est vrai qu'on se laisse entrer dans ce scénario qui est simpliste, certes, mais qui est tout à fait agréable. C'est cotonneux, on est bien. Oh là là, c'est sympa. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer après.
Et juste un détail, c'est contrairement à des Stranger Things où on prend une bande de jeunes normaux dans un monde normal qui partent en vrille, enfin parce qu'il y a des choses surnaturelles qui arrivent et tout ça. Donc ça, c'est là, on a des bandes de jeunes dans un monde déjà pas normal.
Hein, c'est cartoonesque. Donc en fait, on arrive. C'est vrai que on en parlait hors plateau tout à l'heure de cet exemple. On sort de la maison et on peut aller chez le voisin. Et chez le voisin, il y a des fantômes. Ils sont invisibles, mais ils font voler les tasses. Il y a une chaise qui vole. Ah, c'est dur à tenir sur la chaise. Bon, on comprend que là, la notion de la suspension d'incrédulité est placée assez haut. Oui. On comprend qu'on est dans un monde pas très sérieux et que c'est pas très grave s'il y a des choses qui sont pas très cohérentes. D'ailleurs, ça arrive assez vite puisque dans la bande, alors on a les classiques. On a donc le saillant, vaillant au grand cœur. Donc Chris, on a Matt, c'est le petit génie qui va construire un rayon laser dans son garage. On a Charlie, c'est la meuf de la bande. Pareil, elle a pas peur et elle se bat avec grâce avec sa corde à sauter. On a Big Joe, lui c'est le black token de la bande.
Il est
costaud.
Il déplace des trucs lourds et tout ça.
Voilà, et malheureusement ultra cliché des films de cette époque-là aussi.
Les persos sont
et puis on a Kevin, donc c'est le petit frère de Chris qui, et je pense que c'est pas un spoiler de le dire, n'a pas de capacité particulière hormis celle de mourir. Il meurt très rapidement et d'ailleurs ça va apporter la principale mécanique de gameplay de ce jeu-là, qui est le fait que le monde en fait est divisé en deux, le monde des vivants, le monde des morts, et que d'une simple pression d'une touche en fait on peut voir, on va dire, tous les gens qui sont morts un peu dans le coin, dans différentes périodes. Du coup on appuie sur cette touche et on voit alors des fantômes de dinosaures et puis des fantômes d'amérindiens du coin qui étaient là et puis qui se demandent qu'est-ce qu'ils font là. Je sais pas, on est là, on est mort.
Ce qui est marrant, c'est qu'on peut se balader et on peut quasiment parler à tout le monde. Il y a toujours des petites séquences, des petites phrases, des trucs, enfin voilà, on peut échanger pas mal de monde.
Puis il y a des des cavernes, et puis c'est la première interaction qu'on a, c'est avec des hommes des cavernes, d'ailleurs c'est plutôt rigolo, ou des mecs morts récemment aussi, enfin, c'est assez intéressant.
C'est surprenant, moi je l'ai pas vu venir la mort du petit frère tout de suite en lançant le jeu,
je peux pas trop en parler parce que dans les démos que j'ai fait il était déjà mort, donc je savais qu'il allait mourir assez rapidement.
Mais j'avais rien lu dessus, j'ai lancé le jeu vraiment, et tiens quand même,
mais c'est bon, et c'est vrai que de toute façon je trouve que la mort est pas super bien amenée dans ce jeu là, parce que la mort dans ce jeu est amené aussi maladroitement que la mort des personnages dans les films des années 80. Donc à ce niveau-là, on est.
Il y a quelque chose de formel. Il y a le fond et la forme est assez cohérent. Enfin.
Peut-être. Mais en attendant, je suis peut-être plus aussi jeune ou aussi naïf qu'à l'époque quand je regardais ces films-là. Mais c'est vrai que aujourd'hui, je pense. Mais il est mort, les gars. S'il vous plaît, réagissez. Soyez humains. Soyez pas des robots. C'est grave ce qui se passe. Et non, en fait, on est vraiment dans l'action. En fait, c'est-à-dire que l'histoire continue de se dérouler. Il se passe des choses assez terribles dans ce jeu quand même. Mais on reste dans l'humour, dans le potache.
Après, c'est vrai que tout est vu du point de vue des enfants uniquement. Ouais, c'est vrai que tu vois pas vraiment d'adultes intervenir. On les croise évidemment. On interagit avec eux, mais tout est vraiment. Tout est vu du côté des enfants, donc ce qui peut peut-être aussi expliquer un certain
peut-être
une vision un peu étrange.
Mais du coup, j'ai eu ce sentiment de malaise jusqu'à la toute fin. J'avais ce sentiment de malaise de c'est pas normal ce qui se passe dans votre monde, les gars. Mais c'est vous me tuez, et jusqu'au bout ils mettent des blagues de paix, des trucs comme ça. Il y a un personnage, le personnage dont on parle, là, Kevin, ce qui est passé, c'est de péter ou tirer une crotte de nez. Bon, alors c'est un peu lourdingue, mais bon, je passe là-dessus. Mais c'est vrai que petite dissonance sur ce que devrait être leur réaction et ce qu'est leur réaction dans le jeu par rapport à ce qui se déroule, qui est un peu terrible. Donc voilà, donc ça c'est la mécanique principale. Il s'agit sinon, pour parler vraiment du cœur cœur du gameplay d'un jeu action-aventure en vue de trois quarts,
Zelda.
Un peu à la Zelda, ouais. Voilà. Mélange entre un Zelda et un beat'em up oui. Un peu classique, c'est-à-dire que des fois on va être bloqué dans une zone, on va vous envoyer trois vagues d'ennemis et on va continuer. C'est plutôt bien exécuté, j'ai pas grand-chose à dire sur l'aspect, on va dire, voilà, jouabilité, c'est plutôt agréable à jouer. Peut-être un petit manque d'équilibrage, c'est-à-dire que Big Joe dont on parlait, donc qui est le petit personnage un petit peu obèse qui met des grosses patates, qui a beaucoup de vie, je le trouve absolument pété. Je trouve c'est le personnage le plus craqué du jeu.
Bah, tu l'utilises uniquement au moment où tu dois l'utiliser. Quand tu dois.
Non, au contraire, il est très.
J'ai vraiment utilisé ça ou dans les séquences de Bidemo, là.
Il arrache les barres de vie, c'est hallucinant. Ouais. Mais bon, c'est un détail, ça. Après, on joue pas, voilà. On faut faire attention parce qu'il suffit qu'un seul des personnages meure pour que ça soit game over.
Il faut toujours gérer son.
Il faut toujours passer d'un personnage à l'autre. Et tout ça. Et donc, on a aussi des petites énigmes, donc avec le personnage qui est mort, là, dont on parlait, qui va pouvoir passer à travers les murs, qui va pouvoir aller récupérer certains objets pour les ramener aux vivants qui ne peuvent pas passer à travers les murs. Donc, des petites énigmes, c'est simple, hein, à base d'interrupteurs, de caisses à pousser, de portes à ouvrir, de personnages à
qui parler. C'est là où, moi, ça m'a vraiment rappelé du Zelda, enfin, avec des systèmes de donjons, machin.
C'est quand même très linéaire, c'est-à-dire que même les quelques donjons. Les quelques donjons dans leur forme, dans leur level design, sont très courts,
sont pas très
compliqués. Dans le reste, ça reste très linéaire, mais c'est pas grave parce que finalement, comme on est dans cette idée un petit peu de film des années 80, on a envie de savoir la suite avec des méchants très méchants, des gentils très gentils. On a juste envie de savoir la suite parce qu'on passe un bon moment au niveau de cette histoire. On soupire de temps en temps parce que c'est pas très subtil par moment, mais voilà, il y a une notion de on est quand même bien avec ce jeu, et surtout on sent que les développeurs de Séville
qui sont Fouratique,
ils ont mis tout leur cœur dans ce jeu. C'est-à-dire qu'on peut pas retirer ça
ils
ce jeu.
Ils ont mis
toute leur âme dans ce jeu-là.
Il y a pas un pixel qui n'est pas référencé.
C'est très joli. Et les musiques sont dingues. Les musiques sont dingues. Il y a vraiment une. C'est de l'orchestration à la Spielberg, quoi. C'est vraiment.
John Williams.
Ouais, la John Williams, exactement. C'est-à-dire qu'on a des petits violons là qui s'envolent, les petites flûtes qui s'envolent aussi pour montrer le côté aventure des choses. C'est étonnant à quel point je trouve que la bande son est au-dessus de tout le reste, et le reste est déjà bien haut, tu vois, en termes de réalisation, en termes de gameplay et de graphisme.
Très très bien.
Étonnamment,
j'étais assez étonné de l'avoir arrivé, cette bande son. Elle semble presque pas faite pour, il y a un côté
presque tout le monde.
Oui,
je suis d'accord, elle est presque en décalage avec un jeu en pixel art, en fait.
Elle est très bonne.
Et petit clin d'œil aussi, et ce sera mon point final pour ce jeu qui est quand même fort sympathique au demeurant, c'est les petits dessins animés ponctuent l'aventure, qui sont assez fous, moi je trouve. Donc voilà, on avance dans l'aventure et de temps en temps il y a des dessins animés, mais alors moche, mais c'est super qu'il soit moche, c'est exactement ce qu'on attend.
Mais c'est la quintessence des dessins animés affreux.
C'est marrant parce que c'est des cutscenes de 5-6 secondes, hein. Enfin, c'est jamais
très long. Des fois, c'est jamais très long.
Tu poses le pad et tu la regardes.
C'est trop drôle, c'est vraiment trop drôle.
Des artefacts VHS.
Exactement. Ils sont vraiment fait plaisir. Mais voilà, donc Crushing Souls, si vous n'avez pas encore trop soupé de cette exploitation de la nostalgie, allez-y, vous retrouverez tout ce que vous aimez. Et puis pour le reste, ça reste une aventure sympathique. Voilà.
Patrick.
Alors moi j'ai envie de dire, est-ce qu'un jeu vidéo ou un cinéma passe Cobra et Stallone peut être mauvais ? Est-ce que voilà, c'est un peu la question. Non, vraiment, comme tu disais, très bonne surprise. Moi, je trouve que c'est un jeu qui réussit. Alors. Il y a toute une vague du pixel art aujourd'hui. C'est ultra mode jusqu'à l'écœurement même parfois.
Pour moi, c'est un genre.
Et je trouve que parfois, c'est utilisé pas forcément de façon très justifiée. On est en plein dedans. C'est justifié par l'ambiance, par la thématique. Et je trouve que ça se marie bien avec un jeu qui, justement, joue à la fois sur l'ambiance années 80, son look années 80 avec ce pixel art qui justement joue sur les références par quelques pixels. On reconnaît une affiche, on va reconnaître un petit clin d'œil, les affiches de cinéma. Allez faire un tour vers le cinéma, il y a des affiches, ça fait rêver, quoi. Et puis un gameplay qui est ultra référentiel aussi dans son, tu parlais de Zelda, moi je alors c'est plus années 90, mais moi pour moi il y a aussi du Zombies Ate My Neighbors qui était un jeu de Lucas qui était sorti dans les années 90, pareil avec un univers, c'est des jeux à univers avec on traverse une aventure de quelques heures, mais on sent qu'il y a eu tout un univers de créer autour, et ça on le sent dans ce jeu, je trouve. Un peu comme Earthbound, le fameux RPG.
C'est différent.
Pour moi non, pour moi il y a un côté où tu traverses une aventure avec, comme tu disais, qui est plutôt linéaire, mais tu sens qu'il y a tout un univers derrière, par petite ouais. touche, par petite chose. Tu sens qu'il y a eu tout un, il y a tout un imaginaire autour. Et ça, pour moi, ça marche.
La vraie différence entre ce jeu-là ou d'autres jeux, Zombies Ate My Neighbors et Earthbound, c'est qu'Earthbound est critique tout le long. C'est une énorme critique de cette boîte. Alors que là, on le glorifie vraiment. C'est plutôt quelque chose de ah, c'était bien.
C'était bien.
C'est la seule.
Mais en fait, pour moi, ça réussit à ce jeu en dehors donc de très référentiel, de faire des clins d'œil, même peut-être trop. C'est vrai que c'est une orgie de clins d'œil.
Il y a que ça.
Moi, quand j'ai commencé le jeu, je me suis dit, c'est même trop, c'en est même gênant. On se dit, faut peut-être arrêter, à un moment, c'est que ça.
Mais ça fait plaisir. Je l'ai.
Mais ça fait plaisir parce que voilà, le jeu. Et encore une fois, c'est cohérent. C'est cohérent parce qu'il y a le visuel, il y a la thématique et il y a le gameplay qui est très roots aussi. Comme tu disais, le côté Zelda mixé avec d'un seul coup, on a une section de beat'em all, mais vraiment beat'em all à l'ancienne où on va aller castagner du méchant dans les rues.
C'est Zelda meets de Double Dragon, quoi.
Mais c'est ça, d'un seul coup, on retrouve ça. On a une section avec des boss où on est vraiment avec des patterns à l'ancienne où il faut reconnaître les patterns, faire du Parkour, du Die and Retry. C'est, tout ça est cohérent finalement. Donc le contrat marche. Et tout ça fait un jeu qui tient la route parce que finalement on a ce qui est promis dans les débuts du jeu. Donc tout ça est très cohérent. Encore une fois, c'est un monde que je trouve intéressant. Et moi, ce que j'aime bien, c'est les différents personnages qui ont chacun leur capacité. Mmh. Et
y compris dans le monde. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais certains peuvent grimper, d'autres peuvent
pousser des trucs plus lourds, etc. Et en fait, très vite, on a ces mécaniques que moi j'ai trouvé bien foutues avec ces énigmes où on arrive, faut trouver qui va intervenir. Ça. Et il y a cette petite gâchette qui fait qu'on change de personnage. Et très vite, on prend cette habitude à switcher de personnage et on intègre tout ça très très rapidement. Et je trouve que c'est bien fichu. On a vraiment cette complémentarité avec les personnages qui finalement sont des clichés mais finalement sont attachants assez rapidement parce qu'on les a vus déjà dans 50 films ces personnages.
Ce sont des clichés et ils sont attachants.
Et finalement le jeu finalement est pas comment dire, il assume. Il joue en cliché, il va pas plus loin, il a pas des velléités de refaire les années 80. Il y a un côté, voilà, on est dans notre jus de l'époque.
Il n'est pas prétentieux.
Exactement. Je cherchais le mot, bien trouvé. Et en fait, voilà, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est cette espèce de fusion de différents genres dans une expérience totale avec du beat'em all, de l'énigme très visuelle. Mmh. Et tout ça marche très bien. Moi, les petits bémols, c'est dans l'écriture. Je trouve qu'il y a certaines remarques. La traduction, moi j'ai joué en traduction française.
J'ai joué en anglais moi pour cette fois. Donc,
Je sais pas si la version originale, la version originale ou pas. Alors, après, j'ai pas forcément les solutions. C'est vrai que c'est souvent des petites remarques, donc c'est pas toujours facile à traduire. Il y a eu des moments où je trouvais que c'était un petit peu léger. Et puis moi, je trouve que autant le visuel global est très très bien fichu, avec des petits clins d'œil sur quelques pixels, autant les portraits plein pot des personnages quand ils parlent sont très moches.
Je suis d'accord.
Ils sont très moches. Et ils jurent avec le pixel art qui est très bien fichu, très référentiel, avec des petits clins d'œil. Et alors, quand on a les visages, c'est pas très beau.
Bah oui, parce que c'est issu des dessins animés,
Disons que c'est pas très beau. Et puis bon,
ils auraient mieux fait de mettre les portraits de dessins animés directement.
Il y a des petits passages arcade un peu tendus. Je trouve que la difficulté, des fois, il y a des pics comme ça qui sont pas toujours très bien gérés.
Le combat dans le jardin, là, le cinéma en dur, tu comprends pas pourquoi d'un seul coup c'est super.
Il faut aller retirer les caisses en haut, machin, le mec qui tire. Tu comprends pas. Et t'es obligé d'alterner, il te lance des trucs. C'est un peu ça. Et puis même la course de vélo après qui est un peu bon. Mais on s'accroche, comme tu dis, on en
a déjà. C'est une référence à Battletoad, la course à vélo.
Mais c'est plein de références, même dans le gameplay. C'est ultra référentiel, même dans le gameplay. Donc c'est cohérent. Donc on valide.
j'avais peu de doutes. J'avais peu de doutes sur une validation de Crossing Souls.
Le jeu est très sympa. Donc c'est PC, PS4. Si j'ai pas
voilà, une vingtaine d'euros. 15. Ah oui, 15. Oui, pardon. Donc Crossing Souls sur PC, PS4, 15 euros. On en avait déjà parlé parce que Science en Joue existait déjà en 2009, rappelez-vous. Mais oui.
Oh, c'était déjà depuis 2 ans.
J'étais alors un auditeur assidu.
et il existait d'autant plus en septembre 2014 quand le numéro 2 est sorti. Et là, les deux reviennent en introduction avec le 3 qui est déjà annoncé, qui ne va pas tarder, sur la Switch. Et ils reviennent sur la Switch, c'est Bayonetta 1 et Bayonetta 2.
John, I'm on my way.
Bayonetta 1 et 2 qui reviennent sur la Switch avant l'arrivée du troisième. Alors voilà, octobre 2009 au Japon, janvier 2010 en Europe, c'était Bayonetta 1, produit par un peu la superstar de Platinum à l'époque, Hideki Kamiya. Ouais.
Devil May Cry. Hein.
Et de, voilà, de Devil May Cry, on sent la généalogie. Hein, oui.
C'est des suites spirituelles de Devil May Cry.
Voilà, la suite spirituelle, exactement. Et puis Bayonetta 2, quand même 5 ans plus tard, qui arrive, exclu Wii U, ce qui fait que le nombre de gens à y avoir joué est relativement, limité quand même. Donc c'est l'occasion de redécouvrir ces jeux. Je t'ai vu jouer, Corentin, parce que tu as fait pratiquement tous tes deux runs sur Twitch.
Absolument. En entier.
Et donc, alors ça donne quoi de...
Oh bah ça fait toujours plaisir de jouer à Bayonetta. C'est un jeu qui était excellent en 2009. C'est un peu, ça a pas surpris tout le monde, mais genre en fait Platinum Games était à l'époque avait déjà sorti l'étonnant Mad World sur Wii. C'était un studio qui était sorti un peu des cendres de Clover de l'époque, qui appartenait à Capcom si je ne me
trompe pas. Oui voilà c'est ça. C'est quand.
C'est ça.
Mikami et Camilla.
Et donc il y avait Mad World et Bayonetta qui sont un peu suivis. L'un après l'autre, et c'est vrai qu'on a eu coup sur coup deux excellents jeux dont on s'attendait pas, et dans le même genre, mais avec deux lectures très différentes du Beat Them All, donc Bayonetta 1, donc 2009, sorti sur Xbox, et qui à l'époque avait vraiment trouvé un public très restreint, mais très très passionné, on va dire, très vocal. Malheur au jeu, bien qu'il ait été extrêmement bien reçu par les critiques, il ne sait pas. Très très bien vendu et comble de malchance, Sega était dans une mauvaise passe financière à ce moment-là et donc au moment de sortir Bayonetta 2, au moment de faire les premières ébauches et tout ça, Sega a dit ça va pas être possible en fait pour Bayonetta 2 parce que c'est pas un investissement qui va nous intéresser plus que ça. Super Nintendo arrive pour dire en fait nous on n'a pas de jeu sur la Wii U donc peut-être ça nous intéresse, donc ils sont arrivés un peu en sauveur finalement de la... Il n'y aurait pas eu de Bayonetta 2 s'il n'y avait pas eu Nintendo qui a tout simplement financé le deuxième jeu. Ce qui fait que Bayonetta est une licence un peu étonnante, qui appartient un peu à Sega, un peu à Nintendo. La licence appartient à Sega, le premier jeu appartient à Sega, mais Bayonetta 2 et 3 appartiennent à Nintendo, donc c'est très bizarre. C'est comme ça que Bayonetta 2 et Bayonetta 1, d'ailleurs déjà ressortis à l'époque sur Wii U, sont arrivés sur Wii U en 2014. Une ressortie PC qui a eu lieu l'année dernière, en fin d'année dernière, 1080p, 60fps.
Elle était propre, la version PC, du coup.
Il me semble bien qu'elle était assez propre. Ouais. En fait, la seule version qui n'était pas vraiment propre, c'était la version PS3, qui a été gérée par Sega assez mal, ce qui a...
Beaucoup de bruit.
Ça a fait beaucoup de bruit, bien sûr. Et donc là, Bayonetta 1 et 2 reviennent sur Switch, et c'est tant mieux, parce que Bayonetta 2, comme tu l'as dit, personne n'y a joué, parce qu'il fallait avoir une Wii U, or la Wii U est l'échec qu'on connaît. Et donc, ça va être l'occasion de lui redonner sa chance. Comme on a redonné sa chance d'ailleurs à Bayonetta 1 de nombreuses fois entre toutes les rééditions, et c'est un jeu qui le mérite. Donc Bayonetta, pour ceux qui connaissent pas, donc on incarne cette sorcière qui s'appelle Bayonetta, qui est une espèce de sorcière à la fois sexy, ultra empowered, qui se bat avec des flingues aux mains et aux pieds. Elle fait du breakdance, elle fait du lap dance, elle est là, elle met des coups avec style à des anges parce qu'elle fait partie de du clan Umbra, c'est les sorcières, et de l'autre côté du spectre vous avez les sages de Lumen, et elle se bat contre des anges parce que anges c'est vilain.
Ça c'est pour moi c'est la trouvaille du jeu d'ailleurs, c'est de retourner justement d'avoir les anges qui sont des monstres dans le jeu, et je trouve que ça c'est vraiment la trouvaille.
Et dans la direction artistique, pour aller encore plus loin dans ce que tu dis, c'est que les anges, en fait, ils sont un petit peu célestes et un petit peu, très classe vu de loin. Puis dès que tu commences à les tabasser, en fait, ils perdent leur morceau de pierre. Et dessous, c'est des monstres horribles, en fait. Ouais. C'est des monstres absolument hideux. Et donc, c'est un jeu qui est extrêmement rapide, qui est très, très jouissif à jouer parce que les combos, en fait, il y a plein de combos différents. Ça fait que vous pouvez un peu mâcher un peu tous les boutons, vous finirez par faire un combo. Et les seuls coups puissants du jeu, en fait, c'est les fins de combo. C'est-à-dire que.
Il y a deux boutons, c'est ça, quand on fait des enchaînements et qu'on peut activer les...
Non, c'est vraiment le dernier coup de ton combo. Donc par exemple, tu fais pied, point, point. Le dernier point va être un point géant qui va mettre un énorme coup à plusieurs ennemis et qui va faire très mal à tout le monde. Ce que tu parles, en fait, c'est des coups spéciaux que tu peux lancer quand tu remplis une barre de furie.
Quand tu remplis, tu peux mettre un super coup.
Et le centre du gameplay de Bayonetta, et là je parle pour Bayonetta 1 et 2 parce que c'est à peu près la même chose d'un point de vue gameplay. Le centre du gameplay de Bayonetta 1 et 2, c'est l'esquive. Et l'esquive, en fait, vous rend invincible comme n'importe quelle roulade, que ce soit dans un Dark Souls ou quoi. Mais là, ça vous donne un avantage si vous arrivez à caser votre esquive au tout dernier moment. vous allez obtenir le Witch Time, qui est un bullet time dans lequel vous mettez des énormes coups à un personnage qui est un peu frisé dans le temps, comme ça. Et c'est jouissif parce qu'il y a des effets partout. Ce jeu est plein de ce que les développeurs appellent de juiciness, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui se passent à l'écran. On a un retour, un feeling immense, sympa, tout bouge très vite. On a vraiment l'impression d'être bon, en fait, alors qu'on n'est peut-être pas forcément si bon que ça, mais le jeu vous donne l'impression d'être une bête. C'est hallucinant. Vous êtes, regardez, là, je fais là, là, et dra, alors qu'en fait, t'es juste en train de mâcher ton pied et ton poing. On se bagarre sur des jets en pleine
c'est le deuxième, ça.
Ouais, dans le deuxième, ça démarre. On est sur un avion de chasse dans la ville. C'est n'importe quoi.
C'est une surenchère de mise en scène dans la série.
Tu disais tout à l'heure, c'est kitsch, mais c'est en fait, c'est
over the top.
C'est
en fait.
Over the top. Voilà, le vrai terme, c'est over the top.
Je me suis dit, quand même, c'est quand même super marqué, quoi. C'est ultra kitsch.
C'est là où c'est une sorte de on va plus loin que Devil May Cry, qui sont allés déjà très loin. Enfin, Devil May Cry sur la PS2, on s'en souvient encore. Enfin, rien que le fait de bâcher les ennemis avec l'épée et de sortir ses flingues et les laisser en l'air en les tirant. Enfin, on était sur PS2 à l'époque. On était en 2001. C'était il y a 17 ans.
Jeu,
et on se souvient de ça, mais. What? Et on avait, et en fait, on se rend compte, on ne savait pas qu'on avait envie de le faire avant de le voir, mais voilà, c'est le truc, ah ouais, enfin, et Bayonetta, ça allait encore plus loin, et c'est...
C'est un roller coaster, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il se passe plein de trucs. Pareil, vous lancez Bayonetta 1 pour la première fois, vous êtes sur un morceau de bâtiment en train de tomber d'une falaise et vous battez contre des ennemis. Ça commence comme ça, le jeu. Ça vous met.
Performance de mouvement de caméra, même sur les boss, quand on suit un boss ou qu'on saute dessus, qu'on revient, qu'on repart.
Et ça ne laque pas.
L'environnement s'effrite quasiment systématiquement.
Et ça ne laque pas. Et donc, tout est fait pour vraiment t'en mettre plein les yeux et te faire prendre un pied. C'est vraiment un roller coaster. L'histoire n'a aucun sens, mais c'est pas grave.
Son sidekick, là, qui commande toujours, etc. Je sais plus comment il s'appelle. Le personnage.
Il en a plusieurs, mais bref. De toute façon, l'histoire est idiote et on s'en fiche. Et surtout, gros point fort, c'est les boss qui sont gigantesques, qui pareil, vous donnent un sentiment de ah, moi j'ai tué ce machin parce qu'il est gigantesque, il fait la taille d'un aéroport, pourquoi pas. non, mais voilà, c'est ce genre de choses. Et on s'en sort, on est très heureux. On peut passer après un mode de difficulté supérieur, on vous retire le bullet time. Il y a plein d'armes différentes, on peut se battre avec des flingues, des épées. Des patins à glace, des lance-roquettes, enfin voilà, il y a de tout. C'est super cool. Et la version Switch, puisque c'est de ça dont on parle, est plutôt cool parce qu'on peut du coup y jouer en portable. J'ai essayé les deux, donc j'ai fini les jeux donc avec mon pad pro, c'était très bien, il y a pas de problème. Tranquillement. Et ensuite j'ai un peu joué dans le métro de manière un peu portable pour voir si.
C'est la classe, un Bayonetta quand même en forfait.
C'est fou, on vit une époque formidable. Bayonetta en portable,
c'est quand même la force. C'est la force de la Switch et tu en avais déjà parlé, c'est que ça m'a fait racheter Bayonetta que j'ai déjà sur Wii U et pour y jouer en portable. Je dis, comme ça, je peux y jouer partout.
Et donc un des problèmes qui risquait éventuellement d'arriver, c'est les petits boutons, les petits sticks, les petites gâchettes. Non, ça va, on s'en sort très très bien. Si vous n'avez pas eu l'occasion de faire Bayonetta 1 et 2, allez-y, même en portable, ça passe nickel. En plus, je crois que c'est le prix d'un jeu normal, donc c'est 45 euros et vous avez les deux.
Si vous avez le 2 en cartouche et le premier en démat.
Alors je sais que toi, ça va te faire très mal, mais.
Non, comme ça, on l'a tout le temps en la console, en fait, en démat.
Oui,
c'est
voilà.
C'est l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas
Donc, foncez, si vous aimez le genre beat'em all, c'est du tout bon. Ouais.
Alors, pour finir, on va finir par la nouvelle création de Subset, le studio derrière Faster Than Light FTL, pour les intimes, plus connus sous le nom de FTL, d'ailleurs uniquement connus sous le nom de FTL, on se souvient même plus que ça veut dire Faster Than Light. Enfin bref, le nouveau jeu s'appelle Into the Breach. Alors on va en parler rapidement, tout simplement parce que je n'y ai pas joué énormément, mais je pense que c'est un jeu dont on saisit très très vite la portée. En fait, on saisit très très vite la portée à ce moment précis où on est face à une situation pourtant simple. C'est-à-dire que la carte, c'est 8 cases sur 8 cases, donc un échiquier, hein, grosso modo, la référence est claire. On a 3 ou 4 unités, il y a 3 ou 4 méchants. On a à décider, parce que c'est du tour par tour, on a à décider un mouvement et une action, comme Advance War, enfin la stratégie, la tactique tour par tour, les joueurs connaissent. Sauf que là, on met 10 minutes. Et au bout de 10 minutes, on est là. Non mais est-ce que je suis vraiment sûr? Et on est face à des situations comme ça, mais ça fait des nœuds dans la tête. Et pourtant, on a 3 unités et il y a 3 ennemis. Mais pourquoi? Parce que, évidemment, il y a les dégâts, ça compte. Buter les ennemis, ça compte. Sauf que, en fait, il y a... Comment dire? Il y a deux choses qui rentrent en jeu. C'est que les dégâts viennent avec les déplacements. C'est-à-dire que les unités, on va les déplacer. Et que, en fait, le but n'est pas tant de les tuer, mais de les empêcher de détruire les villes et les décors et les cases, en fait, les cases qu'on doit protéger. Et ce qui fait qu'au moment où on doit jouer, on connaît les mouvements, les types d'attaques des ennemis, qui ne vont pas en changer. C'est-à-dire que si tel ennemi tire tout droit, si on le déplace, il va continuer à tirer tout droit.
Il ne faut pas le déplacer pour qu'il vise une ville, il faut plutôt l'éloigner.
Voilà, et il peut tirer sur ses petits copains. Et que s'il se déplace et qu'il y a un petit copain dans l'autre case, et ben ça va faire des dommages aux deux. Et s'il se déplace et qu'il y a une unité amie sur l'autre case, ça va faire des dégâts à notre unité amie, mais on s'en fout parce qu'à la map suivante, elle se régénérera et tout ça. Mais ça va faire des dégâts à l'unité. Si c'est une montagne, ça va faire des dégâts à la montagne, mais on s'en fout aussi. Mais surtout, ça va faire des montagnes à l'unité. Si les cases peuvent s'enflammer, donc ça peut faire aussi des dégâts. Il y a comme ça des montagnes de réactions en chaîne qui sont pas énormes, hein, mais quand je vous ai dit, il y a 3 déplacements plus 3 tirs, ça veut dire potentiellement, par exemple, il y a l'artillerie, elle déplace les 4 cases qui sont autour de son point d'impact. Donc, celui qui est fait en combat corps à corps, il peut aussi expulser, entre guillemets, toutes les cases qui sont autour. Ce qui fait qu'on a un nombre de choses comme ça, ce qui fait qu'on est comme ça sur une sorte de mini partie d'échecs modernisée, tout ce qu'on était habitué pour les joueurs d'échecs, en fait, on interprète le coup d'après, puis le coup d'après, puis le coup d'après. Sauf que là, en fait, c'est le coup d'après de notre propre coup. C'est la cascade de conséquences que vont avoir ces propres coups.
Du coup, c'est du tour par tour ou est-ce qu'on décide de toutes les actions et ensuite tout se déroule?
Non, on décide des actions de notre unité, puis il y a les actions de l'ennemi, puis il y a les actions de notre unité. C'est en plusieurs, chaque combat est entre 4 et 6 tours, en fait.
Ok, donc c'est pas du simultané après avoir décidé des actions, c'est vraiment du tour par tour.
Et on a accès à peu près à toutes les infos, c'est-à-dire on a accès aux tirs que vont faire les unités adverses, à l'ordre dans lequel elles vont agir. Ouais. Donc on a toutes les infos qui sont présentes. Ce qui donne la réflexion à avoir, c'est le moment où on comprend
une crise de breach.
Il faut essayer de se projeter. Et moi, je suis resté entre 5 et 10 minutes sur un coup avant de me dire, mais non, il faut que je joue. Je sais même pas si j'ai bon.
J'en ai marre
de cette situation-là, quoi. Je me souviens, je peux même vous redessiner sur un damier de 8 par 8 où étaient les unités et les points à protéger parce qu'on mémorise. Pour le reste, Into the Breach est un roguelike, hein, comme FTL. En fait, grosso modo, on a une série de petits combats, il faut combattre. On joue des mechas et il faut combattre des aliens qui s'appellent les Vec. Et en fait, il y a 4 îles comme ça qu'on peut libérer comme ça, chaque île étant divisée en 8 minimaps de 8 par 8 comme ça. Et donc, on va choisir, on commence par une minimap et puis par une map de 8 par 8 et puis on va choisir sur une île les prochaines qu'on va débloquer, sachant qu'on a une barre de vie générale. Qui va s'affaiblir à chaque fois que les ennemis vont détruire un terrain, enfin un bâtiment ou une case à protéger. Et quand c'est à zéro, la partie est finie, on recommence à zéro. Mais il y a des choses à débloquer, des types d'unités à débloquer, sachant qu'on commence avec un squad particulier, qu'on peut débloquer d'autres squads. Les autres squads vont changer totalement la topographie parce que quand je vous ai parlé des réactions en cascade, si les réactions sont différentes, et ben en fait ça change totalement notre manière de penser le jeu.
C'est organique, en fait.
Ce qui est fou, c'est la simplicité. Je rappelle, c'est une carte de 8 par 8. C'est, même en jeu de tactique temps réel, j'ai rarement vu aussi petit, quoi. Ouais. J'ai l'impression que même dans le truc free-to-play... Là,
oui, alors, c'est ce que j'allais dire. Ça, comme tu en parles, ça semble être un anti-Fire Emblem Heroes, en fait.
Voilà, ça m'a fait passer à Fire Emblem Heroes sur la taille des maps qui sont ridicules. Sauf que, en fait, Fire Emblem Heroes, on ne se pose que très rarement la question de l'action à faire, en fait. C'est assez mécanique. Là, c'est, voilà, on, on reste sur une seule action. Et c'est voilà, il y a quelque chose de vertigineux à avoir prévu sous une apparence aussi simple quelque chose d'aussi complexe en fait. Ouais. C'est là où je suis fasciné.
Ah, c'est intéressant. Puis le pixel art a l'air chouette. Ouais. Moi, ce que je reprochais à FTL, c'était le fait qu'il soit pas très très beau quand même et pas très sexy de loin. Non, mais là,
c'est travaillé. C'est travaillé.
Il me fait de l'œil, hein. Il me fait de l'œil. Le petit Into the Breach.
Ça s'appelle Into the Breach. Donc là, je crois que c'est une vingtaine d'euros. Je m'étais trompé dans mon truc. Disponible en tout cas pour l'instant sur PC seulement. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Tu vois, on a à peu près tenu. Hein. Ouais. Tu croyais pas, vu le programme, mais on a à peu près tenu.
Sur, mais c'est parce que j'avais prévu de parler une demi-heure de Bayonetta aussi, c'est pour
voilà,
ça.
C'est ça. On va finir rapidement pour le coup par la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Corentin ?
Pop Team Epic, c'est une petite série de 10 minutes. Je sais plus, on est au 9e épisode, il doit y en avoir 13 ou 12, qui est diffusée actuellement sur Crunchyroll. Ça arrive un épisode toutes les semaines. Ça raconte. Alors, c'est basé sur un webcomic qui a été diffusé entre 2014 et 2017, si je ne m'abuse. Et c'est absurde, humour noir, vulgaire, tout ce que vous voulez. Et en fait, c'est une série de petits sketchs qui met en scène, j'ai noté Popuko et Pipimi. Et Pipimi, c'est ça. Qui sont deux petites lycéennes de 14 ans. Il y en a une qui est grande et brune, l'autre qui est petite avec des couettes et blonde, qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup de doigts d'honneur, mais qui en même temps, voilà, c'est un humour extrêmement bizarre, non-sens, qui est extrêmement référencé. C'est-à-dire que ça va faire des références à Undertale, ça, et ce qui est très bizarre pour un truc japonais. Ça va faire des références à des vieux films, à des vieux jeux vidéo.
Pourquoi tu me regardes quand tu dis ça ?
Parce que tu sais pourquoi. Mais voilà, c'est assez étonnant. Non, je pense que ça plaira pas à tout le monde. Et ça mélange plein de styles d'animation. Parfois c'est de la 3D, parfois il y a un passage hallucinant où les mecs animent en tournant des pages d'un carnet, ils ramènent d'autres carnets pour une scène comme ça, c'est hallucinant. Et c'est voilà, c'est extrêmement nonsensique. Et chaque épisode arrive en double avec l'épisode doublé par des filles. Ensuite c'est le même épisode mais doublé par des garçons. Et à chaque épisode les quatre doubleurs changent. Voilà, pourquoi pas. Donc c'est doublé à chaque fois par des gens différents. Des célébrités du monde du doublage. Pop Team Epic, c'est sur Crunchyroll. C'est très bizarre, je vous recommande d'essayer. C'est bizarre.
Patrick.
Et moi, je lis du Batman en ce moment. J'ai retrouvé deux énormes tomes que j'avais achetés il y a 5 ans et que là, je m'y mets sérieusement. Ça s'appelle Batman, la légende. Donc c'est chez Urban Comics, c'est eux qui font ça en France. En fait, c'est une traduction de The Brave and the Bold et c'est Jim Aparo. Donc c'est le Batman des années 70 avec ce style qui est pour moi un des meilleurs styles de Batman. Non, ça c'est 60s. Ah non, je parle d'accord. Du Batman,
oh, pardon, avec, je me suis trompé de 5 ans.
Qui est très très charismatique avec son costume plutôt bleu gris et surtout cette série donc en deux tomes, donc c'est 2 x 500 pages. Donc je les ai pas ramenés parce que c'est des vrais bulletins. Ce qui est bien, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est le Batman détective. On a une vingtaine de petites histoires dans chacun des deux tomes. Et c'est vraiment le Batman qui collabore avec d'autres super-héros et qui va se frotter au paranormal, qui utilise finalement peu de gadgets, mais qui réfléchit. Et c'est
qui
le
enquête,
Batman
quoi.
Qui enquête. Mmh. Et ça, j'adore ça, cette vision du Batman finalement tout simple, qui réfléchit, retour au Batman détective. Et donc, il y a beaucoup de flirts avec le surnaturel. J'ai noté quelques titres pour vous. Vous avez une idée, alors il y a une histoire, c'est la maison des maudits, on a la secte des assassins ou dernier vol pour Gotham. Voilà, ça donne un petit peu une idée de. En tout cas, il y a une super imagerie, le look très années 70, qui est vraiment fabuleux, c'est le Batman flamboyant. Batman, la légende en deux tomes, c'est très très bien.
Ok. Moi j'ai vu Happy Valley. Happy Valley, c'est une série de la BBC. Une série policière, 6 épisodes, il y a une saison 2 qui fait 6 épisodes aussi, ça se passe vers Halifax, voilà. En fait, c'est une série, j'ai rarement été confronté à une série hyper dure, c'est-à-dire que c'est, il faut imaginer un peu un style Fargo, enfin, avec où grosso modo, c'est une sorte de descente aux enfers, de gens qui n'ont pas prévu de descendre aux enfers, et avec des policiers qui ne sont pas habitués à être confrontés là-dedans, avec la vie personnelle qui s'entremêle avec les enquêtes et tout ça, sauf qu'on rigole pas. On rigole pas. C'est cruel, c'est lourd. Non, en fait, c'est hyper lourd. J'avais vraiment du mal.
Pesant plutôt, tu veux dire.
Ouais, mais oui, voilà, c'est
pas lourdingue.
Non, c'est pas lourdingue. Ouais. Ouais, lourd dans le sens pesant. Enfin, voilà, c'est. Et Alors ça va mieux à partir de la moitié de la saison, mais c'est...
Tout le monde se met bras dessous et se met à rire très fort.
Non, mais c'est... Ça, alors, par contre, les acteurs sont exceptionnels. L'histoire est très très bien, même très sombre, mais très très bien. C'est une enquête policière, à base de kidnapping. Et franchement, très très belle surprise, série anglaise, moi, avec la qualité des séries de la BBC, généralement, avec une actrice... c'est aussi rare d'avoir une actrice dans la cinquantaine, héroïne, flic dans la cinquantaine, on est très loin des clichés dans les séries, et c'est vraiment très bien. Ça s'appelle Happy Valley, et c'est disponible sans doute un peu partout. Voilà, merci en tout cas.
Merci.
Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine sur Libération, sur No Life et sur les internets. Ciao.